Vivre FM, podcast.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Septembre, c'est le mois qui fait frémir de nombreux enfants. C'est le mois de la rentrée des classes, il faut retourner à l'école et c'est pas forcément marrant. Mais pour certains enfants malades ou handicapés, ce qui n'est vraiment pas marrant, c'est de ne pas pouvoir aller à l'école comme et avec tous les autres petits copains ou copines. Pour certains enfants, l'accès à une scolarité ordinaire ne va pas de soi. Mais aujourd'hui, regardons du côté des associations et des institutions qui font bouger les choses et s'organisent pour permettre l'accès à l'école malgré les différences. C'est ainsi qu'une expérimentation est menée du côté de Limoges et de Poitiers, une expérimentation qui vise à soutenir la scolarisation en classe ordinaire pour des enfants autistes. Une expérience inédite dans des écoles primaires qui offrent un environnement inclusif. Et ben ça existe vraiment et nous allons vous en parler tout de suite. Et bonjour, bienvenue dans Au plus près de la recherche. Aujourd'hui, autour des micros, trois femmes. Anne-Sophie Morena, directrice du pôle autisme de l'ADAPEI de la Corrèze et coordinatrice régionale des dispositifs d'autorégulation dont nous allons parler dans un instant. Leslie Amiot, qui est enseignante-chercheure en psychologie à l'Université de Rouen. Et Maryse Lacombe, qui est conseillère technique auprès de la rectrice de Limoges. Merci à toutes les trois d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous parler d'une expérimentation qui est une première en France, une expérimentation dont le but, c'est l'inclusion scolaire des enfants avec un trouble du spectre autistique. Alors peut-être tout de suite une précision, quand on parle d'enfants avec des troubles du spectre autistique, c'est un spectre assez large justement. Est-ce qu'on va parler dans cette émission d'inclusion scolaire qui concerne un peu tous les enfants avec TSA ou certaines catégories d'enfants avec autisme?
Aujourd'hui, nous allons parler de TSA et donc vous avez tout à fait raison, le spectre est très très large. Nous allons même aller plus loin que ça puisque nous considérons que l'autisme dans ce dispositif est une porte d'entrée pour parler de l'inclusion dans un terme beaucoup plus large que ça. Donc nous avons créé ces dispositifs-là à la base pour les enfants autistes et pour qu'ils puissent être inclus en classe, mais nous allons nous apercevoir, et c'est tout l'intérêt de ce dispositif-là, qu'il y a des bénéfices pour tous les enfants.
Donc non seulement tous les enfants avec autisme, mais les autres aussi. Pour des classes d'âge situées, c'est des classes...
L'école primaire.
D'accord. Alors bah justement, cette expérimentation, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, Anne-Sophie, je vous annonçais comme directrice du pôle autisme de l'ADAPEI et coordinatrice de dispositifs d'autorégulation. L'autorégulation, c'est le dispositif qui est au centre de cette expérience. Qui veut se lancer pour expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit? Allez, Anne-Sophie.
L'autorégulation, c'est en deux mots la capacité à être éveillée et calme. Ce sont donc deux qualités que les enfants et les élèves ont besoin et dont nous avons besoin, nous tous, en grandissant et dans notre quotidien, pour évoluer dans un environnement et avoir des réactions qui sont adaptées à l'environnement et de pouvoir rentrer dans des situations et d'apprentissage, surtout pour des élèves. Un élève, lorsqu'il rentre dans une situation d'apprentissage, il faut qu'il soit en prérequis éveillé et à la fois calme. C'est bien pour ça que je vous disais que l'autisme, c'est également des difficultés à rentrer dans des apprentissages du fait des troubles d'autorégulation. Un enfant, lorsqu'il a par exemple des comportements problèmes, lorsqu'il a des difficultés à lire son environnement, c'est bien une des caractéristiques de l'autisme, la difficulté de pouvoir lire ce qui nous entoure, eh bien des troubles du comportement ou ce qu'on appelle aujourd'hui des comportements problèmes vont apparaître. Et dans ces comportements problèmes, l'enfant va manquer des opportunités d'apprentissage. Il rate ses opportunités d'apprentissage et donc il a des difficultés à apprendre. Et on rentre dans ce cercle vicieux qui est très très difficile à gérer pour les enseignants, on l'entend tout à fait. On a donc commencé par entendre les enseignants qui nous disaient « oui, on veut pratiquer l'inclusion, on a envie d'avoir toutes sortes d'élèves dans nos classes, mais aujourd'hui dans une classe de 28-30 élèves, on a des profils très très divers. On a certes des enfants qui sont diagnostiqués ayant un trouble du spectre de l'autisme, mais on a aussi des enfants qui sont dysphasiques, des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage d'une manière beaucoup plus large. Et on a essayé de penser à un modèle qui existe et qui puisse prendre en compte, au moins en compte, la diversité des profils dans une classe de 28 ou 30 élèves. Et j'ai eu la chance de partir au Canada et d'y vivre pendant 5 ans et de rencontrer là-bas le docteur Stéphane Bonne, qui a travaillé sur ce modèle-là d'autorégulation depuis plus de 15 ans aujourd'hui, et qui met en place un coaching, une approche qui permet de réunir à la fois les acteurs du médico-social et de l'éducation nationale autour d'une table, autour de cette approche de l'autorégulation, et qui prend en compte également toute l'école. Donc, ayant travaillé à ses côtés au Canada, où l'école est déjà de fait inclusive, en revenant en France, je me suis dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut absolument qu'on rencontre, puisque moi j'avais une position donc, au sein de l'ADAPEI de la Corrèze, dans le médico-social, il faut rencontrer nos partenaires de l'éducation nationale qui veulent aussi travailler autour de l'inclusion et peut-être proposer cette démarche d'autorégulation. Et donc j'ai rencontré Maryse Lacombe qui à ce moment-là, elle était déjà plus qu'engagée sur tous ces sujets-là et je crois qui a été séduite par l'approche de l'autorégulation.
Maryse, vous voulez répondre? Est-ce que vous avez été séduite tout de suite par cette expérience?
C'est vrai que le modèle canadien, je le connaissais par mes lectures. J'avais déjà entendu le docteur Stéphane Bonne faire une intervention sur Limoges et ce qu'il prononçait par rapport à l'école inclusive, c'est-à-dire l'école pour tous, sans distinction, c'est vrai, m'avait séduite. Quand j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, en particulier avec Anne-Sophie, je me suis dit pourquoi pas essayer de voir comment en France on pourrait offrir une nouvelle modalité de scolarisation. Parce que le projet que nous expérimentons n'est pas là pour abolir les autres modalités. On ne dit pas que c'est la réponse unique. Mais c'est une autre modalité de scolarisation qui vient s'offrir à des élèves et à des parents pour que ces élèves-là puissent être inscrits dans une école ordinaire. Ce sont des élèves à part entière. Ils y seront scolarisés complètement et ils peuvent bénéficier quand les comportements problèmes apparaissent, d'une sorte de SAS qu'on appelle la classe d'autorégulation avec une enseignante et surtout un plateau technique du médico-social formé qui est validé par l'ARS puisque reconnu comme ayant de fortes compétences en autisme. Et donc, il y avait deux leviers dans ma tête et Anne-Sophie le dit bien, c'était le premier levier apporté aux élèves quand ils ont besoin que ces comportements problèmes deviennent trop prégnants. Une aide, des réponses, à travailler sur des comportements alternatifs, mais aussi avoir un autre levier. Et en tant qu'inspectrice, c'est ce qui m'intéressait peut-être aussi le plus, c'était de savoir comment on allait faire modifier les pratiques des enseignants, comment ils allaient pouvoir trouver des réponses pour pouvoir accueillir cette diversité. Parce qu'en effet, dans ces classes, à l'heure actuelle, il n'y a pas que les enfants autistes. Il y a bon nombre d'élèves qui sont là. Il y a des élèves allophones, il y a des élèves intellectuellement précoces, il y a des élèves en situation de handicap, il y a des enfants du voyage. On peut citer bon nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et les enseignants, face à cela, souvent ils disent qu'ils ne sont pas armés, qu'ils ne savent pas répondre correctement à cette demande. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est plutôt du désarroi. Et je crois qu'il faut faire des formations, et ça l'éducation nationale en fait très largement, je peux en attester, mais il faut aussi penser en termes d'accompagnement pour réfléchir à sa pratique et à la modification de sa pratique. Et ça, la supervision qui est mise en place dans ce projet m'a apporté une réponse. Alors oui, j'ai été séduite.
Ouf. Un mot avec vous aussi, Leslie. Je disais, vous êtes enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Rouen. On va revenir un instant sur où se mène l'expérience, qui est plutôt du côté de Limoges et de Poitiers. Et du coup, peut-être nous dire comment vous êtes, vous aussi, devenue partie prenante de cette recherche et en quoi a consisté justement votre rôle.
Alors, en fait, dans le cadre, effectivement, de mon métier, de ma profession d'enseignant-chercheur, je suis à la fois, effectivement, chercheur du côté troubles des apprentissages, autisme. Et donc, c'est un petit peu la porte d'entrée pour l'évaluation de ce dispositif. Mais je suis avant tout, en fait, enseignante à l'École supérieure professorale et de l'éducation sur l'éducation inclusive à l'ESPE de Rouen, mais aussi à l'ESPE de Limoges. Et donc,
ESPE.
Du coup, voilà. École supérieure du professorat et de l'éducation.
Ouais.
Donc voilà, c'est un petit peu par ce biais-là, parce que dans le cadre de mes formations, je dispense aux enseignants ordinaires ou aux enseignants en voie de spécialisation. Eh bien, effectivement, c'est des choses que je pouvais dire sur la prise en compte des émotions, des comportements, et pas simplement du sujet qui apprend il faut prendre le tout dans sa globalité. Donc, c'est un petit peu via cette entrée-là que j'ai été au contact, mise au contact de Maryse Lacombe et puis d'Anne-Sophie après.
Alors Anne-Sophie, vous disiez que cette expérience, elle est inspirée de l'exemple canadien des classes d'autorégulation. En France, pour dire un mot de l'historique, de quand est-ce que ça a commencé, c'était 2016, sur l'année scolaire 2016-2017, qu'il y a déjà eu la première expérimentation. Aujourd'hui, il y en a trois et on est sur un panel total, je crois, d'une trentaine d'enfants autistes concernés par cette expérimentation.
Oui, le premier dispositif a été celui qui a ouvert en Corrèze, donc avec l'acteur médico-social pour lequel je travaille, donc l'ADAPI de la Corrèze, qui a bien voulu croire également en ce projet. De toute façon, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes dans un virage inclusif, comme l'appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, qui promeut plus que largement ce virage inclusif et cette inclusion pour tous et l'école pour tous. La question n'est plus de savoir si l'on va vers l'inclusion, la question est de savoir comment va-t-on pouvoir pratiquer. Donc la première école a été celle de Saint-Germain-l'Évergne en Corrèze, avec l'acteur médico-social ADAPI de la Corrèze. Puis ensuite, il y a eu, sur la rentrée suivante, deux autres écoles, en se posant la question, puisqu'on peut le faire en Corrèze, peut-on le reproduire? Est-ce généralisable à d'autres écoles? Et on a ouvert donc ce dispositif également sur l'école de Boisseuil, qui est juste à côté de Limoges, qui dépend également de l'Académie de Limoges et qui est portée pour le coup par les PEP 87, un autre acteur médico-social.
Les PEP, les pupilles de l'enseignement public.
De l'enseignement public. Ah. Et ensuite, et également sur Angoulême, sur l'école Jules Ferry, plus grande école. Donc, ce sont trois écoles à échelle différente, à taille différente, avec comme acteur médico-social AVA, Agir et Vivre l'Autisme, qui est un acteur médico-social connu sur ce département-là. Nous avons été donc soutenus par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'Éducation nationale
de Limoges et de Poitiers,
voilà, largement représentée aujourd'hui, et également la FEGAPI, aujourd'hui Nexem, qui nous a permis de développer ce projet-là et également de financer la recherche qui est aujourd'hui menée. On parlait de l'inclusion et de la mise en place de ce dispositif-là par rapport au Canada. On a dû apporter des modifications et l'adapter à notre culture française. Finalement, quand on regarde, on prend un pas de recul, on regarde aujourd'hui comment on a pu construire ce dispositif, c'est quand même un peu une révolution pour chaque corps de métier, je crois. C'est une révolution pour le médico-social où on dit à des éducateurs spécialisés, des psychomotriciens, des orthophonistes, le plateau médico-social, le plateau technique, comme on l'appelle, vous ne travaillerez plus dans des centres spécialisés, vous ne travaillerez plus... On arrête de faire ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années en France, de prendre les personnes en situation de handicap et de penser que c'est de l'enseignement et de l'éducation spécialisée dont ils ont besoin. Vous irez travailler dans le milieu ordinaire, vous allez travailler dans une école ordinaire. Donc attention, vous n'êtes plus chez vous, vous n'avez plus cette toute-puissance éducative. On a donc lancé des recrutements et des éducateurs nous ont tout de suite dit « mais c'est notre cœur de métier, nous on est là pour accompagner les enfants dans le milieu ordinaire. Jusqu'à présent, c'est peu possible, mais on va le faire, on y va ». Du côté de l'éducation nationale et de l'école, c'est aussi quelque part une révolution, puisqu'on ne considère plus dans ces dispositifs, en tout cas les enseignants spécialisés en France ont toute leur place et ont toute leur importance pour certains types de handicap. On en a plus que besoin de ces enseignants spécialisés. Mais dans ce dispositif, on dit à tous les enseignants des classes ordinaires, vous allez être en capacité de prendre en charge et d'enseigner à tous les enfants, y compris des enfants ayant un TSA, des enfants autistes.
Oui, si je peux compléter, c'est effectivement par rapport à l'éducation nationale et aux enseignants, c'est de se dire que finalement, souvent, il y avait une appréhension de se dire les élèves autistes, ils sont ingérables en classe, il y a des gros problèmes de comportement, etc. Et c'est aussi de se rendre compte que finalement, le profil de ces élèves avec troubles du spectre de l'autisme, il n'est pas si différent des autres élèves. Parce que dans les classes, des élèves qui sont en grande difficulté d'entrer dans la lecture, dans les mathématiques, etc., présentent des problèmes de comportement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons mots. Alors, ils vont être plutôt agressifs, ils vont parler avec le corps, etc. Ils peuvent aussi avoir toutes sortes de problèmes d'attention, de mémorisation, etc. Et finalement, ces élèves autistes ne sont pas si différents. C'était plutôt des appréhensions.
Ça nous ouvre des portes quand même en termes de réflexion par rapport à tous les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire qu'en effet, on ne reste pas focalisé simplement sur ces enfants-là, mais on essaie de trouver des réponses pour tous les autres élèves qui pourraient aussi poser problème, avec des comportements problèmes dans les classes.
Vivre FM, podcast.
Et toujours en plateau avec Maryse Lacombe de l'Éducation nationale, Leslie Amiot qui est aussi de l'Éducation nationale, finalement, un peu, oui, si.
Oui, double casquette, l'ESPE, c'est à la fois université et à la fois rectorat, donc oui.
Donc j'ai bon. Et Anne-Sophie Morena pour l'ADAPEI de la Corrèze. Nous parlons de ces classes, de ces classes ordinaires qui accueillent des enfants autistes, une expérimentation qui est loin d'être très généralisée. En tout cas, en ce moment, c'est surtout dans trois établissements, donc c'est encore peu, mais a priori les résultats sont positifs, donc espérons que l'expérimentation suivra son chemin et qu'on pérennisera ce dispositif. Et justement, ce dispositif, Maryse nous disait à l'instant, qu'il concerne effectivement bien au-delà des enfants autistes, qui va avoir un impact, et on le verra peut-être tout à l'heure en disant un mot des premiers résultats sur les autres enfants. Mais avant cela, revenons sur les principes pédagogiques, sur la méthode cognitivo, on dit comportementale d'apprentissage, qui est mise en place concrètement. Il s'agit de quoi? On a bien compris qu'il y avait des obstacles à l'intégration. Vous disiez tout à l'heure, il faut qu'un enfant soit dans de bonnes conditions, qu'il vit un certain environnement. Concrètement, comment ça se passe? Comment on fait pour faire travailler ces enseignants, ce corps médical, tous ces professionnels qui ont besoin d'être intégrés à ce dispositif? Qui peut-être Anne-Sophie pour commencer?
Oui. Une petite précision et qui illustre bien ce dont vous parlez. Quand on parle de méthodes cognitivo-comportementales, on parle de méthodes qui vont aider l'enfant ou l'élève, en l'occurrence, à la fois sur le comportement, mais aussi sur toutes les fonctions cognitives. Puisque tout à l'heure, on a parlé des comportements problèmes, de ce qui apparaît, ce qui est observable. Mais ce qui est observable, c'est la partie observable de l'iceberg qui cache derrière tout ce qui se passe au niveau des fonctions cognitives. L'autorégulation est... permettre ces élèves d'être en classe ordinaire, c'est aussi agir sur leurs fonctions cognitives. C'est-à-dire que l'autorégulation, c'est aussi aider l'enfant à améliorer ses capacités d'attention, de mémorisation, ses capacités de langage, aller chercher en mémoire les bonnes informations et à les retranscrire au bon moment dans l'environnement voulu et lorsqu'un enseignant, par exemple, donne une consigne. Toutes ces compétences-là, il est difficile pour n'importe quel enfant de les acquérir et de les développer. Il est encore plus difficile pour un enfant ayant des besoins éducatifs particuliers et dont les enfants TSA, de les acquérir et de les mettre en œuvre. Donc l'autorégulation, on a ce plateau technique qui est au sein de l'école, avec des éducatrices. Il est important de souligner que nous avons des éducatrices et éducateurs. Nous avons souvent trois éducateurs pour 10 enfants inscrits dans l'école, c'est voulu. Parce que dans ce dispositif-là, on souhaite développer de plus en plus l'autonomie. Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup d'AVS et du besoin d'AVS. Et je crois que certains enfants ont besoin d'AVS près d'eux. Mais il faut penser en termes d'autonomie pour le futur de ces enfants. Et ça, nos amis canadiens et notamment notre superviseur Stéphane Bonne nous le dit bien. Il y a 10, 15 ans, 20 ans au Canada, les enfants ont tous eu, à côté d'eux, des adultes, des professionnels qui les suivaient en un pour un, en suivi individuel. Et ça les épaulait, ces enfants-là, sur l'instant T. Mais en termes d'autonomie, il faut qu'on apprenne à ces enfants-là à poser leur cahier sur la table, à prendre leur agenda lorsque l'enseignant le demande. Et ce qu'on souhaite, c'est par ce dispositif-là, du fait même qu'il y ait 3 éducateurs pour 10 enfants, on est obligé de penser à rendre l'enfant autonome pour qu'il s'en sorte seul, ou en tout cas sans adulte près de lui comme béquille temporaire, au sein d'une classe ordinaire.
Oui, je pense que par rapport à la question qui était posée, c'est aussi de se dire qu'effectivement, dans ce dispositif-là, on travaille sur l'enfant, mais on travaille aussi sur les adultes qui interagissent avec l'enfant. C'est-à-dire que les enseignants qui scolarisent ces enfants au quotidien, eh bien, c'est aussi d'apprendre à fonctionner différemment. Plutôt que de relever en permanence les mauvais comportements, parce qu'il est agité sur sa chaise, parce qu'il n'arrive pas à faire ci ou ça, c'est plutôt justement de mettre en avant et de valoriser, hein, c'est la base des méthodes éducatives justement pour ces élèves-là, de valoriser, d'avoir des renforçateurs. Tiens, quand il a fait une bonne chose ou quand il a réussi à rester tant de temps assis, etc., eh bien, on va le renforcer positivement et ça va avoir un impact justement pour que ces bons comportements puissent perdurer. Et comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, sur les interactions qu'on a dans la gestion des émotions avec les aspects cognitifs, apprentissage, eh ben, on voit que quand on leur apprend à gérer leurs émotions, ou quand on n'est pas toujours en train de pointer du doigt leur mauvais comportement, eh bien, ça va avoir un impact direct sur leur capacité à rester attentif 5 minutes, 10 minutes, à pouvoir avancer avec l'ensemble du groupe classe.
On voit bien là qu'on touche à la gestion d'un groupe classe dans sa globalité. Il n'y a pas que les enfants autistes qui ont des problèmes de renforcement positif, il n'y a pas que les enfants autistes qui ont des problèmes d'attention. Dans les classes à l'heure actuelle, il y a bon nombre d'élèves qui ont ces problématiques-là. Et les enseignants, par le biais de ce projet, sont amenés à travailler aussi une pédagogie beaucoup plus explicite. C'est-à-dire savoir rentrer dans un contrat didactique qui est clair et structuré. Et je crois que c'est peut-être cette structuration de l'apprentissage, c'est-à-dire donner à voir d'où on part, où on va, comment on s'y prend, comment on structure le tableau, comment on structure les apprentissages, comment on modèle les apprentissages aussi. Ça permet aux enseignants de vivre leur métier d'une manière différente. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne pourrais pas me le permettre puisque je ne suis plus enseignante, mais les enseignants qui sont dans ce projet nous disent « on a appris un autre métier ». Ce n'est pas rien d'entendre ça de la part d'enseignants. Ça veut dire qu'ils découvrent qu'en fin de compte, on ne leur demande pas de l'individualisation par rapport à chaque profil, puisqu'on dit répondre aux besoins des élèves. Mais si les élèves sont tous singuliers, on doit répondre à chacun? Non, on leur demande d'avoir des gestes professionnels qui leur permettent de prendre en charge un groupe tout en étant vigilant par rapport à certaines spécificités.
Et ça veut dire que le dispositif, l'expérimentation dont on parle, représente quand même un travail énorme en termes et de coopération et de formation, aussi bien des enseignants, du corps professoral, et aussi même, j'imagine, des parents intégrés à l'aventure.
Et la municipalité.
Et la municipalité pour le
même
le
prêt de salle. Ce n'est pas que l'école, mais il y a aussi la cantine, il y a aussi les temps périscolaires. Donc tout cela...
L'expérimentation est menée dans tous les aspects de la vie, pas
exactement.
Seulement effectivement le temps de
exactement.
Classe.
Exactement.
Parce qu'un enfant qui est autiste ne cesse pas d'être autiste à 10h15 quand c'est le temps de la récréation.
Dommage.
Dommage.
Pratique.
Ou tant mieux pour l'école. Tant mieux. Ces enfants-là sont accompagnés donc en récréation, en cantine, dans tous les aspects de leur vie. Parce que ce qu'il se passe dans une récréation, on voit souvent une excitation cognitive et des comportements apparaître, vont avoir une répercussion sur les apprentissages qui vont se passer après la récréation. Donc, quand vous parlez de formation, effectivement, il y a un gros volet formation et ce qu'on appelle supervision, mais c'est
oui,
en fait...
Oui, tout à l'heure, vous parliez du superviseur.
Oui, c'est en fait un accompagnement vers d'autres pratiques et de nouveaux gestes professionnels pour tous les corps de métier. À la fois le personnel qui est là à la cantine, les éducateurs qui sont sur place, les enseignants, l'ensemble des enseignants est formé et on invite également les parents à ces formations et on rencontre les parents très très régulièrement pour qu'il y ait une cohérence autour de la prise en charge et de l'accompagnement de ces enfants.
Et je disais qu'il y a aussi un coaching régulier, c'est-à-dire oui. qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est le superviseur
c'est, ou... Oui, c'est ce qu'on appelle du coaching in vivo. Donc actuellement nous sommes deux, Stéphane Bonne et moi-même, à faire cette supervision sur les sites. Je viens environ 3-4 jours par période scolaire, donc toutes les 6 semaines, sur chaque école, pour observer en classe, donner une rétroaction et ce qu'on appelle un feedback aux enseignants par rapport à leurs gestes professionnels. Pas sur l'aspect pédagogique en tant que tel, on ne touche pas au programme scolaire ni à tout ce qui est à mettre en place pour un enseignant, mais plutôt sur la gestion de la classe, comment aborder, comment changer les pratiques, puisque Leslie en parlait tout à l'heure, mais ça c'est vraiment ce qui est souligné de la part des enseignants. Comment après 20 ans de pratique, nous avons nous-mêmes été éduqués comme ça, on pointe souvent ce qui n'est pas fait. On est dans une société qui est très basée sur la défectologie. Sur 4 exercices de maths, on va pointer les 2 exercices qui n'ont pas été faits. On passe de ce cercle vicieux qui en fait appuie la tête des enfants souvent sous l'eau à un cercle vertueux où on va essayer d'accompagner les enseignants vers du renforcement positif pour que les enfants se sentent de mieux en mieux et aient envie d'apprendre. Parce que tout ça est basé sur la motivation intrinsèque. La motivation de l'élève et celle de l'enseignant, plus ces motivations-là vont être élevées, plus les opportunités d'apprentissage vont être multipliées et donc on passe à ce cercle vertueux de l'apprentissage et de la volonté d'apprendre et du bien-être d'être à l'école, autant pour l'élève que l'enseignant qui arrive de mieux en mieux lui aussi à gérer sa classe.
Vivre FM, podcast.
Et toujours au micro, Leslie, Maryse, Anne-Sophie et Leslie, on continue avec vous peut-être parce qu'il s'agit d'une recherche. Il y a une étude d'impact qui est faite, il y a une évaluation scientifique qui porte sur ces trois dispositifs que nous présentions en entrée d'émission, les trois établissements scolaires concernés, les trois établissements pionniers. On est en 2018, ça fait la deuxième année que c'est en cours. On a déjà des résultats et a priori, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Vous confirmez, vous infirmez, c'est positif pour tout le monde ?
Alors, si on peut revenir déjà sur le principe, effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place pour la scolarisation des élèves autistes en milieu ordinaire, mais l'impact, on veut l'évaluer non pas seulement sur ces élèves autistes, mais aussi sur des élèves neurotypiques, comme on a l'habitude de les appeler, et sur des élèves qui présentent soit des troubles d'apprentissage, soit des troubles du comportement, puisque finalement, c'est aussi un constat qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans les classes et qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Alors, sur le début des évaluations, c'est plutôt pour l'instant sur le ressenti et sur des impressions d'enseignants ou effectivement l'amélioration des comportements, des prises en charge qui peuvent être plus efficaces. Après, c'est quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée et que du coup, effectivement, là, ça demande encore un peu de temps avant de voir vraiment des résultats objectifs par rapport aux tests qu'on peut faire passer.
Donc aujourd'hui, on pressent plutôt des résultats positifs à venir qu'on
Là, c'est plutôt par rapport à, effectivement, des élèves qui étaient incapables de rester en classe. Et aujourd'hui, les enseignants disent qu'effectivement, ils sont capables de rester en classe jusqu'à la prochaine récréation ou qu'ils sont capables de rester concentrés sur une tâche, d'arriver au bout de la tâche. C'est pas simplement en termes de concentration, hein, mais d'arriver à faire la tâche qui est demandée, etc.
Donc, sur les premiers résultats tout de même de l'expérimentation, on peut dire qu'il y a des effets notables comme l'augmentation de l'attention des enfants avec TSA et des autres et une diminution des troubles du comportement, en tout cas pendant la période scolaire.
Alors oui, ça, c'est sur cette base-là, oui, tout à fait.
Donc ça, au moins, on a, entre guillemets, cette certitude. Donc comment alors, l'évaluation, elle continue. Et deux questions, est-ce que le dispositif, il va être un peu pérenniser, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, combien de temps il va un peu continuer et quelle va être l'étape d'après de modélisation pour transférer ces résultats, pour pouvoir aller un peu plus loin si on sent que ça marche et ça semble être le cas.
Alors pour le moment, nous sommes en convention donc avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc tant que l'ARS Nouvelle-Aquitaine est partie prenante du projet et que les rectorats sont partie prenante du projet et que nous avons des résultats, puisque nous avons des familles qui nous font remonter leur satisfaction et leur attachement à ces dispositifs. Je pense que nous sommes, ma rectrice par exemple, Madame Gavini, est tout à fait encline à poursuivre le projet. Il n'y a pas de souci. Après, la question qui va se poser, c'est on est à l'école élémentaire, quid du collège, parce qu'on a certains jeunes élèves qui sont en âge de pouvoir partir. On ne l'envisageait pas du tout il y a 2 ans, hein. Un jeune garçon, par exemple, qui nous est arrivé après 8 écoles dans lesquelles il n'avait pas pu être scolarisé et qui est resté dans cette école depuis qu'il y est scolarisé, à Saint-Germain-les-Vernes. Et là, les parents commencent à nous dire « Oui, mais il y a le passage au collège qui arrive. » Donc, on est en train de travailler le projet avec un établissement collège, avec des professeurs qui seraient volontaires. Et donc, on commence dès l'année prochaine à faire des formations communes entre le médico-social et les professeurs de ce collège pour pouvoir accueillir à la rentrée d'après ces élèves qui auront fait un parcours à l'école élémentaire, mais qui vont faire un parcours au collège.
Du coup, en tout cas, c'est un modèle qui est transférable à partir du moment où il y a la formation théorique de base, qui n'est pas forcément extrêmement longue, et puis le suivi in vivo, comme vous disiez tout à l'heure.
Voilà,
Sophie,
et puis le financement via l'ARS.
Le financement via l'ARS.
Tout à fait.
Anne-Sophie, votre avis aussi à vous, en tant que superviseur de ces expériences, du positif à tout niveau ?
Du positif à tout niveau, ce que je dis très souvent, c'est que ça n'est pas simple, mais c'est possible. Tout n'est pas tout rose. Ces changements de pratique dont on parlait sont parfois difficiles et nous bougent chacun dans nos lignes. Alors nous attendons avec impatience et puis nous savons que ce sera un petit peu long puisque c'est une étude longitudinale. Nous attendons ces résultats qui seront bien plus objectifs, mais il y a des résultats qui ne trompent pas. Ce sont ceux des les avis et les ressentis des familles et des enfants eux-mêmes, puisqu'on prend beaucoup en compte la parole des enfants eux-mêmes. On fait le point avec eux très régulièrement. et leur famille. Donc on vous a parlé de cet exemple-là il y a quelques instants. Il y a également une petite fille qui était scolarisée 2 heures par semaine avant qu'elle soit inclue à temps plein sur un des dispositifs d'autorégulation et qui en quelques semaines avait fait plus d'heures de scolarité que sur les 2 derniers trimestres qu'elle avait effectués auparavant. Les enfants évoluent à leur rythme. Et ils ont des emplois du temps qui sont très personnalisés en fonction de leurs capacités, en fonction de ce qu'ils ont à apprendre pour être en classe ordinaire. Néanmoins, ils sont tous en réussite. Certains auront même des suites de parcours qui seront différentes. Ces suites-là peuvent être dans la diversité de parcours dont on a parlé. Il y a des enfants qui continueront dans le milieu ordinaire avec ou sans dispositif d'autorégulation. Il y a un jeune garçon qui part dans une autre école primaire plus proche de chez lui puisqu'il fait beaucoup de kilomètres tous les jours pour venir dans une des écoles. Donc il revient vers son école de commune parce que ça va très bien. Il y a une autre jeune fille qui sera orientée dans un institut médico-éducatif dans les années. Les résultats sont très positifs et du côté des enseignants aussi. On en parle souvent et c'est une des parties qui est évaluée par Leslie sur cette recherche-là. C'est le sentiment d'auto-efficacité. On parlait tout à l'heure des changements des pratiques pour les adultes, pour les professionnels, autant les éducateurs que les enseignants. Ce sentiment d'auto-efficacité, c'est le sentiment d'être capable de gérer une classe avec la diversité des élèves qu'on a en face de soi. Et là aussi, on a de belles réussites avec des enseignants qui nous disent... Non, là, l'éducateur, j'en ai plus besoin dans ma classe. Je voudrais essayer tout seul de gérer les élèves parce que je pense que c'est bon. J'ai compris le coaching, la formation m'a aidé. Là, j'essaie au moins 2 jours. Je vous fais un retour après et on agira en fonction de ça. Donc, de tous les côtés, les aspects sont positifs et surtout pour des parents qui nous disent pour la première fois, notre enfant est un élève au sein d'une école. Et ça, ça n'a pas de prix.
Anne-Sophie nous disait à l'instant... Il y a effectivement du positif à tout niveau, les élèves, les parents, les professionnels. Qu'est-ce qu'il y a du coup comme frein encore dans le milieu enseignant? Est-ce que le frein qui était là avant pour ne pas avoir développé ce type de pratique, c'était un frein plutôt d'ordre éducatif, psychologique? Enfin, c'était parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas ou il y avait réellement des freins pratiques, c'est-à-dire des choses qui empêchaient la mise en place de tels dispositifs?
Alors, je pense que par rapport à l'autorégulation et à ce coaching in vivo dont parlait Anne-Sophie, c'est aussi le premier frein, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui vient dans sa classe et qui nous fait des retours, pas forcément toujours positifs, et déjà, mais simplement le fait d'ouvrir sa porte et de faire rentrer quelqu'un d'extérieur ou qui on va se sentir jugé. Et alors là, moi, je fais le parallèle parce que je suis formatrice d'enseignants spécialisés et on le voit bien avec les maîtres à dominante relationnelle ou pédagogique qui finalement, c'est un petit peu ce qu'ils font, mais en étant enseignants spécialisés, eh bien, ont du mal à se faire accepter dans les classes parce que voilà, c'est une première. On a la liberté pédagogique, on ferme sa porte et on fait ce qu'on veut un petit peu dans la classe, même si ça a tendance à vouloir bouger maintenant parce qu'en formation initiale, on travaille dessus. Mais c'est vrai que c'est un frein de faire entrer quelqu'un d'extérieur dans sa classe et de se sentir jugé pour ce qu'on va faire.
Est-ce qu'il y a d'autres, en dehors de ce frein-là, est-ce que vous avez noté parmi le corps enseignant d'autres choses qui potentiellement peuvent rendre compliqué de transférer ce modèle à d'autres établissements ou finalement, non, il n'y a pas de raison?
Si, le deuxième frein, c'est la méconnaissance totale des troubles dont il est question. À l'heure d'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de troubles du spectre de l'autisme, on voit tout de suite l'enfant qui se tape la tête contre les murs, qui est très stéréotypé, etc. Et en fait, on se rend bien compte que voilà, sous l'appellation trouble du spectre de l'autisme, c'est des comportements très, très différents, des profils cognitifs très, très différents. Et là, par rapport à justement aux évaluations, premières évaluations que j'ai pu voir, bien finalement, il y a des élèves neurotypiques que j'ai pu voir et qui, en termes d'attention ou de mémoire, par exemple, ne sont pas du tout différents des élèves, mais effectivement pas du tout pointés du doigt par les enseignants comme étant en difficulté. Et pour autant, si on regarde juste sur les profils cognitifs, on a des vraies correspondances entre les deux profils.
Maryse, je vous voyais tiquer un peu quand...
Non, je n'ai pas tiqué, mais je pense que les enseignants s'ouvre de plus en plus. Étant donné que les classes deviennent de véritables patchwork au niveau de la diversité des élèves, ils ont de plus en plus de contacts avec des professionnels différents. Donc, ce regard qui, en effet, était la base même du métier d'enseignant, c'est-à-dire on est dans sa classe, on est maître à bord, et puis bon, peu de monde y rentrait, sauf l'inspecteur, ou éventuellement le directeur, mais encore. Et donc, là, on sent bien qu'il y a une nécessité d'ouverture. Cette nécessité d'ouverture, je pense que les enseignants la comprennent. Et que petit à petit, vous savez bien, c'est un gros navire, il faut laisser les choses avancer petit à petit. Mais moi, je pense que ce projet, il m'a plu parce que je trouvais qu'il était dans la lignée de ce que je voudrais de l'école d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette école pour tous, cette école où on n'étiquette pas, où on est formé et armé pour pouvoir répondre à la diversité qui se trouve en face. Parce que la vraie question de se poser, c'est on parle des enfants autistes, mais il y a les autres à côté. Qui est-ce qui est normal? Qui est-ce qui est différent dans une classe? Qui est-ce qui n'a pas ses propres particularités, ses propres problèmes? On est tous différents dans une classe. Or, il faudrait former et armer les enseignants à recevoir cette diversité. Jusqu'à présent, ils ont une formation, je parle en présence de quelqu'un qui travaille à l'ESP, mais très, on va dire, presque normée. C'est-à-dire, quand j'entends parler de lecture et d'écriture, oui, c'est nécessaire. Et notre ministre, il a raison d'aller travailler la lecture et l'écriture parce que c'est les fondements de devenir après un citoyen libre. Mais il faut aussi se poser la question de quand j'ai quelqu'un en face qui n'apprend pas à lire et à écrire réellement, comment je m'y prends? Parce qu'autrement, on se retrouve face à des enseignants qui sont désarmés. Ils nous disent, mais on n'est pas formé. Alors le grand mot, c'est je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas formé. Mais l'école pour tous, c'est tout le monde doit être spécialisé.
L'école pour tous et pour toutes, même.
Et pour toutes, excusez-moi.
Le mot de la fin, peut-être, avec vous, Anne-Sophie, sur si on veut en savoir plus, si on veut se renseigner, le mieux, c'est quoi? Si des enseignants, des gens sont intéressés par cette aventure, les classes d'autorégulation?
Oui, les portes de l'école sont grandes ouvertes d'une manière générale en France, mais celle-ci particulièrement, on a été attentif jusqu'à présent à pouvoir répondre à toutes les personnes qui souhaitaient visiter pour ensuite modéliser et passer à cette approche-là. Je rajouterai juste un mot sur ce que Marisa dit, avec qui j'ai co-écrit tous les projets. Néanmoins, je suis d'accord, le navire de l'éducation nationale et de l'école d'aujourd'hui est un navire, un gros navire qui avance lentement, sauf que les parents n'ont plus le temps et les enfants non plus.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Et vous retrouverez sur le site de Vivre FM éventuellement des sites vers l'ADAPEI de Corrèze ou vers des sites sur lesquels se renseigner. Merci à toutes les trois d'avoir été sur Vivre FM aujourd'hui. À très bientôt et puis bonne continuation avec ce projet. Et puis on espère que vous reviendrez nous en parler quand l'expérimentation aura continué et réussi. Merci à toutes
les trois. Merci à vous.
Vivre FM, podcast.